Bonjour mes bien-aimés, inclinons nos têtes en cet instant. Père de gloire, que ton nom soit béni et sanctifié. Ô Jésus, merci pour le sacrifice de la croix qui nous donne aujourd'hui un accès libre auprès de toi. Merci pour ta parole. Merci au Saint-Esprit, car tu viens et que tu vas nous éclairer. Tu nous ouvres l'esprit pour comprendre les Écritures. Et tu nous ouvres les yeux pour contempler la gloire de notre Seigneur. Nous sommes disposés là devant toi, Seigneur, corps, âme et esprit. Parle-nous et enseigne-nous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une loi qui est la toute première que Dieu nous a présentée. Comme on peut entrer dans une maison, je comprends qu'il y a la porte principale. Il peut y avoir plusieurs portes dans la maison qui donnent accès dans plusieurs chambres. Tout comme il peut y avoir beaucoup de commandements, beaucoup de lois dans la maison de Dieu qui peut nous donner accès à bien des révélations sur la foi, sur la persévérance, sur le pardon, sur le service, etc. Mais la porte principale, c'est celle que nous devons entrer avant tout, d'abord, pour Jésus, selon l'Évangile, c'est Jésus. Mais dans la loi de Dieu, le tout premier commandement, c'est donc l'amour. Sans amour, nous ne pouvons rien. Nous savons que dans le livre Corinthiens, dans 13, et même au verset 13, tout en bas, vous verrez que les trois subsistent de tout ce qui a été demandé, exigé par Dieu. Il y aura donc l'amour, il y aura la foi et il y aura aussi cette espérance que nous allons avoir. Mais le plus grand de tous, les Écritures nous disent, c'est l'amour, car l'amour est éternel. D'ailleurs, dans le livre de Jean, Jean dira, Dieu est amour, et ce qui est vrai. Et si Dieu exige l'amour et qu'il veut être aimé, c'est tout à fait logique. On lui doit tout. Il est notre Créateur. Il ne nous a pas fabriqués, prenant des matériaux quelque part, mais il nous a créés par sa parole. Nous sommes le produit de sa volonté. Nous sommes le produit de son amour. Nous existons parce qu'il aime. Il a aimé et il a voulu qu'on soit et nous sommes. Voilà les raisons. Et quand il nous demande de l'aimer avant toute chose, parce que toute chose que nous pouvons vivre, que nous voyons autour de nous, même des hommes, même nos collègues, même nos partenaires, c'est un don de Dieu. Car par la suite, il n'a pas voulu que nous soyons seuls. Il aurait pu nous créer et nous abandonner à l'espace. Mais il nous a donné une terre qui est notre maison. Il a embelli cette terre, des eaux, des animaux, des plantes. Et même, il a créé une femme pour dire à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a permis une société, une tribu, un peuple et des nations que nous sommes pour que nous remplissions la terre et cela a été fait. Mais il reste Dieu. Il doit être aimé avant toute chose. Et nul ne peut le concurrencer ni il ne peut supporter la rivalité comme s'il y avait un autre Dieu. Voilà ce que cela signifie. Mais avant qu'il nous demande cela, avant que cette loi vienne en nous, il y a eu d'abord une histoire. Il y a un homme appelé Abraham, qui finalement, nous savons, était par la suite appelé ami de Dieu. Avant que Dieu puisse nous donner son fils unique, il a d'abord demandé à Abraham son fils unique. Le livre de Genèse, à partir de 22, vous pouvez lire ça. Dieu demande à Abraham, et même les Écritures le disent, pour le prouver, pour voir quelles sont ses dispositions de son cœur par rapport à l'amour qu'il a envers son Dieu, la crainte, l'honneur, le respect, tout va ensemble. Alors il va dire à Abraham, « Prends ton fils unique. » Je comprends maintenant pourquoi Abraham, Dieu l'a laissé avec sa femme Sarah, sans enfant jusqu'à un vieil âge. Parce qu'il voulait qu'il y ait seulement un fils. il nique. Pourquoi? Parce que lui, de son côté, il en avait un aussi, Jésus-Christ, que lui déclare son fils unique. Donc, fils unique face à un fils unique. Est-ce que la créature qu'il a créée serait-elle capable de lui offrir son fils? Puisqu'il était question, l'Apocalypse nous dit, la condition d'Abraham, la condition de l'humanité tout entière, exigeait un sacrifice. Et ce sacrifice devait venir de la part d'une personne qui n'a pas péché, qui a l'image de Dieu comme un homme et qui n'a jamais eu de péché pour mourir pour ceux qui sont injustes, lui dans sa justice, il puisse avoir le droit de pouvoir réclamer les injustes et qu'ils soient purifiés à leur retour à l'image de Dieu. Donc, Dieu s'est gardé son fils unique. Et quand il a dit à Abraham, « Donne-moi ton fils », c'est un peu comme il se disait, « Voyons un peu si Abraham peut me donner ses fils. » Cet enseignement est pour nous. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il a pris son fils, il a pris deux serviteurs, il a mis des bois, de tout ce qu'il fallait pour les sacrifices sur l'âne. Ils sont allés sur la montagne que Dieu devait désigner. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il n'a pas hésité. Et quand il est allé vers Abraham, justement, il a tout mis et même a bâti d'abord l'autel et même le fils qui va demander, « Papa, certainement tu as oublié l'agneau du sacrifice, où est-ce qu'il est ?» Et Abraham va dire, « Dieu pourvoira. » D'où vient d'ailleurs le mot Jésus, « Dieu pourvoira. » Il y a Yeshua. Quand Abraham va répondre ça, en voulant vraiment exécuter son fils sur le bois, sur l'autel, c'est à ce moment que l'ange intervient pour dire, « Voilà, maintenant je sais. » Dieu dit, « Maintenant je sais, Abraham. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as ma crainte. » Mais à cause de ça aussi, qu'il y a eu une promesse, oui, Abraham, quand il s'est retourné, il a eu le bélier qui a pris la place d'Isaac sur l'autel. Il a offert ce bélier en sacrifice. On pouvait oublier cette histoire. Je suis sûr qu'Abraham a oublié. Mais Dieu s'est rappelé. C'était au fait ce test pour voir si Abraham, qui est le père des croyants, méritait bien de recevoir Christ en sacrifice à l'air à sa place. Et quand le moment est venu, Dieu va prendre aussi son fils unique. Nous voyons ce que c'est écrit dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a pris son fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a offert un sacrifice dans le monde afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de ça que tous ceux qui ont cette foi d'Abraham sont donc appelés fils de Dieu. Je veux dire, cet amour, nous devons le voir dans deux volets. D'abord, l'immensité de l'amour de Dieu envers nous, mais aussi ce que Dieu réclame, cet amour immense aussi que nous pouvons avoir envers lui avant toute chose. Donc, il y a complicité entre Dieu et ses croyants, cet amour qui ne disparaîtra jamais, que nous devons avoir. Qui aime Dieu a rempli la multitude de lois et qui aime son prochain, toutes les lois exigées par Dieu sont accomplies dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Nous pouvons voir cela car cette loi qui a été donnée dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ça. » Quand Dieu dira ça par la suite, il l'avait déjà prouvé avec Abraham. C'est un peu comme si il nous demandait d'être comme Abraham, de le mettre en première place dans notre vie. Dieu veut être Dieu et il ne peut être Dieu que quand il est honoré comme Dieu, sinon il ne le serait pas. Mais quand on l'élève comme Dieu, si on le considère comme Dieu, si on l'obéit comme Dieu, et si on remplit réellement sa volonté comme si cela venait de Dieu, alors à ce moment-là, il accepte en même temps d'être appelé notre Dieu. C'est cela, au fait, que nous devons retenir. Maintenant, nous pouvons nous tourner pour regarder, sincèrement, Dieu a prouvé sa part, parce qu'en final, il a donné son Fils pour nous, afin que si nous lui faisons confiance, que nous ayons la vie éternelle. Il nous invite vers le Seigneur. Il veut que nous nous approchions de lui. Il veut nous sortir de cette terre qui est une terre déjà maudite et qui est préparée pour la destruction, car il a préparé une nouvelle terre, un nouveau demeure vers lui, c'est là où nous allons siéger. C'est vrai. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne pensez-vous pas que le moment est venu pour que nous puissions nous tourner pour regarder un peu notre propre conscience? Qu'est-ce que tu aimes le plus? C'est très facile. Parmi tout ce que tu aimes, Dieu avec, si tu me dis que tu aimes Dieu, combien de fois tu penses à Dieu? Combien de fois tu penses à d'autres choses ou à d'autres personnes? Est-ce que c'est Dieu que tu penses plus? Ou ton mari, ou ta femme, ou tes enfants, ou ton travail, ou l'argent, ou ta maison? Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est là, parce que là où se trouvent tes désirs, c'est là aussi se trouve ton cœur. Le Seigneur nous l'a dit. Si tu es juge de toi-même, tu peux vite comprendre cela. Mais je dois avouer, très souvent, nous pensons à Dieu pour les bons chrétiens, si on peut le dire. Ils pensent à Dieu le matin, ils pensent à Dieu le soir. Et beaucoup disent, cela suffit. Et les autres moments, il se livre à lui-même. Il passe toute sa vie avec les autres choses, son travail, sa femme, ses enfants. Et il est là. C'est bien de vivre. Mais Dieu nous a dit aussi qu'il est le Dieu jaloux. Oui. Dans le même livre de Deutéronome, si nous lisons cela, nous pouvons remarquer que Dieu l'a dit. Il est un Dieu jaloux. Dans le Deutéronome 6, chapitre 6, lisez tous les textes et vous allez trouver ça. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Est-ce que nous avons accompli le tout premier commandement qu'il a demandé? Je crois qu'avant d'entamer quelque chose, on commence par le fondement. Quand on construit une maison, on commence par le fondement. L'amour de Dieu est le fondement de l'obéissance qui nous conduit à l'obéissance à toutes les autres lois. Sans cet amour-là, nous ne pouvons rien. Comme je venais de dire, c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13 et verset 13. Il y a la foi, il y a l'espérance, et à l'amour, mais le plus grand c'est l'amour parce que l'amour est éternel. Est-ce que nous avons cet amour-là? D'abord, c'est ça qu'il y a. Sans cet amour, je vous dis, tu peux progresser même dans les études. Tu peux lire toute la Bible. Tu peux faire toute la théologie, venir avec des licences et des diplômes comme tu veux. Mais si tu n'as pas cet amour-là, il t'est impossible. Quand on n'a pas l'amour, on est voilé. C'est-à-dire, cela ne te permettra pas de comprendre. Parce que pour comprendre un sacrifice, pour comprendre le prix à payer, pour comprendre les épreuves, pour comprendre la loi même de Dieu, et pour comprendre tous les services qu'il nous donne, tu dois d'abord comprendre l'amour de Dieu. Parce que nous sommes appuyés sur l'amour. C'est l'amour qui est au fait notre moteur. C'est sur ça que nous appuyons. Quand nous disons, j'aime, c'est pourquoi je fais. J'aime, c'est pourquoi je donne. Dieu a fait la même chose. Il nous a créés par amour. Il a aimé et il nous a créés. Et les Écritures ne se cachent pas et nous disent, soyez donc fils de votre Père. Donc, de la même que Dieu a aimé, aimons-nous aussi. C'est-à-dire, nous serons donc réellement l'image de notre Père, l'image de notre Dieu. C'est cela. Même que les Écritures disent, oui, servez le Seigneur. Et c'est là où nous pouvons lire ça aussi dans Deutéronome 6, dans les textes. Servons donc le Seigneur. Le service, est une des preuves que nous aimons Dieu. Oui, c'est vrai. Car Dieu, pour prouver qu'il nous a aimés, il a donné son Fils. Et il a donné à qui? Il a donné à ceux qui ont la foi d'Abraham, pour récapituler cela. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a fait autant. Il a pris son Fils unique, il l'a donné à Dieu. Et chacun de nous, nous avons des Isaac dans nos vies. Ce que nous aimons le plus, ce qui est unique, c'est ce que Dieu réclame. Abraham l'a fait, Dieu l'a fait. Maintenant, Christ est venu vers nous pour reprendre ses enseignements. Il répétera également la même loi qui a été dite au Deutéronome 6, à partir du verset 5. Il va le dire dans Matthieu, chapitre 22, 37 à 39. Il va le dire dans Marc, chapitre 12, 30. Il va le dire aussi dans le livre de Luc, chapitre 10, 27. Il va le dire aussi dans le livre de Jean, il va le dire aussi. Donc, si nous regardons toutes ces choses, de la manière dont les Écritures nous parlent, Jésus confirme, il le dira. Et il nous enseigne, car c'est la porte même. Il est la porte lui-même. Si nous ne pouvons pas avoir accès à ce message-là, et alors ça va être difficile, comme moi je vous l'ai dit, de saisir, de s'expliquer, d'expliquer le temps de tes requêtes, le temps de tes jeûnes, le temps de tes prières, si réellement cela se fait par amour envers notre Dieu. Deutéronome, disons, nous devrions nous mettre en service. Jésus lui-même est en service de Dieu. Le Saint-Esprit est au service aussi du Père, parce qu'il a entendu du Père ce qu'il doit dire de Jésus-Christ. Car il ne se prêche pas, il prend ce qui est de Christ et il nous l'enseigne. Les Écritures nous parlent ainsi. Il glorifiera le Seigneur. Donc le Saint-Esprit est au service, c'est lui qui réalise tout ensemble avec nous, tout comme nous, nous sommes au service, tout comme Christ était au service. Où est ta place dans le service du Seigneur? Le Seigneur, avant de partir, il nous a dit quelques phrases. Oui, je ne dis pas du tout. Dans Marc, vers chapitre 15, à la fin, il nous a parlé. Il nous a donné cet ordre. Presque les évangélistes l'ont parlé. Dans l'acte des apôtres, Luc, il a encore ajouté dans 1:8 là, qu'il a dit, « Oui, tout pouvoir m'a été donné et je fais de vous des témoins. Allez donc partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et vous recevrez une puissance qui venant sur vous, chasser les démons, etc., etc., annoncer le royaume de Dieu. » C'est le service que le Seigneur qui nous a donné. Mais beaucoup prenons en légère cette recommandation. Et pourtant, c'est la seule façon de prouver à Dieu que nous sommes prêts à le servir et nous sommes prêts à nous confier à lui, et notre amour envers lui n'est pas une blague, elle est réelle. Car personne ne peut entrer dans ce service s'il n'aime pas Dieu. Il doit y avoir d'abord l'amour. Car l'amour parle à l'amour. L'amour répond à l'amour. C'est ce que le Seigneur veut. Regarde, après que Jésus a été ressuscité, Pierre, il a pris ses compagnons pour aller de nouveau dans la pêche. Et ce verset que moi je vous dis maintenant, dans Jean 21, à partir de Jean 15, vous savez, Jésus les a vus alors qu'il avait déclaré à Pierre, « Je ferai de toi pêcheur d'hommes. » Et voilà que Pierre va encore une fois à la pêche. Donc, en négligeant ou en perdant de vue les obligations, les lois, le ministère, l'œuvre que le Seigneur lui a recommandé d'être pêcheur d'hommes, il est reparti pour pêcher le poisson. Jésus va aller apparaître au bord du lac et il va même faire un miracle, les poissons remplis dans le filet. Mais le but, ce n'était pas le poisson. Vous voulez du poisson? Voilà du poisson. Mais après qu'ils aient mangé du poisson, Jésus va demander maintenant à Simon, fils de Jonas, « Oui, m'aimes-tu plus que ceci ne m'aime ?» Parce que Jésus a vu et il a constaté que tous les disciples ne disaient qu'ils l'aimaient, bien sûr, ils forçaient de crier « Je t'aime, je t'aime », mais cela ne venait pas de leur fond du cœur. Oui, ça, ils l'aimaient parce qu'ils l'ont vu comme ami. Ils ont marché ensemble beaucoup plus puissant et ils le ressuscitaient. Comment ne pas aimer d'un amour d'amitié un tel homme? Mais quand Jésus voulait faire comprendre cet amour, il a répondu par trois fois à Pierre, parce que trois fois il a répondu la même chose. Et trois fois il lui pose la question, « M'aimes-tu plus que ceci ne m'aime ?» Quand il disait, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui Seigneur, tu connais toutes choses et tu sais que je t'aime. » Mais jusqu'à ce qu'à la troisième question, Pierre s'est attristé parce que pourquoi Jésus insistait de poser cette question quand Pierre continuait à lui répondre qu'il l'aimait? Parce qu'il avait mal compris l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à faire sa volonté. Donc faire sa volonté, c'est ce que Jésus a dit aussi. Mais faire sa volonté, c'est aller maintenant vers les brebis du Seigneur, vers les âmes, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour chasser des démons, pour les guérir, pour qu'ils reçoivent le baptême, qu'ils reçoivent le pardon par la repentance et la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. C'était ça l'objectif, rien d'autre. Aucune excuse là-dedans. Vous pouvez faire ton champ, vous pouvez faire ta banque, vous pouvez t'enrichir, vous pouvez acheter tes voitures, vous pouvez faire des belles maisons, des buildings, tout ce que tu peux dire. Le Seigneur ne nous a pas demandé cela. Car ces choses-là n'ajoutent rien dans ta vie. Mais il nous a demandé, car d'ailleurs, nous devons savoir, nous sommes étrangers sur terre, tout ce que nous avons trouvé ici, nous allons les abandonner. Nous sommes venus nus, nous en sortirons nus. Mais ce que le Seigneur nous demande, pendant notre pèlerinage, notre séjour sur terre, de comprendre ce qu'il veut nous transmettre. Il veut que l'humanité tout entière puisse être sauvée. Et comment? Par sa parole. Et comment? Par ceux qui vont prêcher. Et comment? Par ceux qui ont écouté, doivent aller témoigner. Nous sommes témoins. Parce que ceux qui l'ont reçu, ils ont tous des témoignages de Christ. Et ces témoignages se servira pour nous, pour présenter comme les paroles à transmettre afin que tous viennent vers Christ. D'abord, qu'ils sachent que c'est celui que Dieu a choisi, mais qu'ils savent aussi qu'il est ressuscité et qu'ils savent aussi qu'il est vivant et qu'ils savent aussi qu'il est là, omniprésent. Ils doivent savoir ça. C'est pourquoi aussi le Saint-Esprit est tout le temps à cause de nous, car si nous nous parlons, lui vient pour confirmer. Il va confirmer ce que tu dis. Beaucoup des églises ne voient pas de miracles parce que vos prédications ne confirment pas la résurrection de Christ. Vous prêchez autre chose. Beaucoup sont devenus, je ne sais pas, ils font la même chose comme des magiciens. Ils commencent à parler des choses du monde. Ils savent ce que le monde cherche. On promet des mariages, on promet des richesses, ils ne font que ça. Mais si c'est vraiment ça que nous devons suivre, qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens qui sont millionnaires, qui sont les propriétaires des banques? Donc, vous allez me dire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Donc, ils enseignent autre chose. Vous voyez bien que ce n'est plus le message de Christ et ce n'est pas dans ce type de message que le Saint-Esprit peut appuyer. Bien au contraire, ça intéresse le diable. Et le diable va emmener beaucoup de gens dans de telles églises car ce n'est plus les églises de Christ et ce sont des églises qui se sont perdues et qui vont être vouées maintenant, qui seront soumises à Satan et non pas à Dieu. Beaucoup sont aveuglés, car l'Église de Christ est celle qui prêche l'Évangile de Christ. J'entends beaucoup dire, oui, les églises évangéliques, mais quand tu visites ça, il n'y a pas d'Évangile, il n'y a pas d'Évangile de Christ. Beaucoup plus, ce sont leurs propres intérêts. Ils ont des grands comptes en banque, ils s'enrichissent, ils font la différence, mais c'est souci peu des âmes. Ils ne visitent pas les maisons des âmes. Vous pouvez voir vous-même, vous qui êtes dans des églises, qui t'a visité? Est-ce que quand tu es malade, est-ce qu'il vient dans ta maison? Mais il ne vient pas. Mais Jésus le faisait. Mais Jésus est Dieu. Il le faisait quand même. Vous allez me dire, mais il y a plus de gens. Mais Jésus avait combien de gens? Il a marché partout. Nous devons comprendre cela. Et nous ne pouvons pas négliger ces choses-là. Car telle est la parole de Dieu. Jésus est donc venu trouver Pierre pour lui dire « Paix mes agneaux, paix mes agneaux ». Ça veut dire seulement « Si tu m'aimes vraiment, et alors nourris mes agneaux ». C'est ce que je suis en train de faire. Je nourris pas la parole, car ceux qui écoutent peuvent venir vers notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui compte encore le plus si nous pouvons parler de l'amour? Dieu a prouvé son amour qu'il a donné son Fils unique. Abraham a prouvé son amour envers Dieu parce qu'il a donné son Fils unique. Ok, où es-tu? Où sommes-nous? Avons-nous aussi, ou sommes-nous prêts à donner aussi notre Fils unique à Dieu? Si Abraham l'a donné et il a voulu vraiment le faire car il l'a donné, car si l'ange n'avait pas intervenu pour saisir le bras d'Abraham, Isaac serait mort pour le sacrifice. Mais nous, nous sommes attachés par d'autres choses. Il y a plein de choses qui dominent, qui ne sont même pas à la hauteur d'Isaac, des fils uniques, mais qui sont au-dessus de Dieu. Très souvent, Dieu vient à la sixième place, septième place, où d'autres disent tout simplement « Dieu n'existe pas ». Voilà où nous sommes. Qu'en sera-t-il à la fin? Car nous ne serons pas capables que nous avons aimé Dieu. Si tu dis oui, quel est cet amour qui peut être appelé amour sans preuve de l'amour? Quel est cet amour? Réfléchissons nous-mêmes. Bien-aimés, revenons. Je sais que beaucoup sont allés trop loin. Ils ont tout le verset à la tête, mais rien dans leur cœur ce qui concerne l'amour. L'amour de Dieu, donc, consiste à aimer Dieu. Et cet amour aussi consiste à aimer ton prochain comme toi-même. Et si tu aimes vraiment ton prochain comme moi-même, parce que nous descendons d'un seul et unique Dieu, dans ce cas, la moindre des choses à faire, c'est de lui donner cette parole, de lui transmettre ce message. Réfléchissez. Celui qui aura accompli les deux commandements, il a obéi à toutes les lois. Car en acceptant cela, en te mettant au service du Seigneur, ton péché est détruit. Le péché originel, le péché de la séparation est effacé. Et tous les autres péchés qui puisaient leur force à la vie de la séparation que tu avais doivent s'éteindre. Comme ils seront comme un arbre sous lequel on a rasé les racines. Il n'y a plus la sève qui monte. L'arbre doit sécher. C'est la même manière que tous les autres péchés sécheront, vont te quitter, car ils ne sont plus nourris. Oui, le péché est nourri quand on est séparé avec Dieu. Et le péché est mort quand on se met ensemble avec Dieu et qu'on est séparé avec le monde. Ou c'est le monde, ou c'est Dieu. Et quand c'est le monde, le péché prend vie. Et quand c'est Dieu, la vie spirituelle prend vie. Lequel tu choisis? Prenez ce message. Transmettez ça aux autres, avant même de commencer à appliquer déjà. L'amour peut être un don qu'on peut solliciter à Dieu pour lui dire, « Seigneur, tu as demandé que je t'aime, mais donne-moi cet amour. » Tout comme on peut demander la foi, tout comme on peut demander l'espérance, tout comme on peut demander à une vie spirituelle. Oui, l'obéissance, la fidélité, pourquoi pas. Toutes ces choses peuvent être demandées, car ce sont des choses que nous ne sommes pas nés avec. Nous sommes nés dans le péché, comme David disait, « Ma mère m'a conçu tout entier dans le péché. » Oui, mon âme est attachée à la poussière, comme Psaume 119 le dit. « Fais-moi vivre selon ta parole. » Donc nous sommes là, mais n'oublions pas, nous ne naissons pas enfants de Dieu comme tels, nous sommes des créatures de Dieu, oui. Mais pour naître de nouveau, alors nous pouvons être appelés enfants. Car là, il y a le pouvoir de devenir enfant ou être appelé de fils quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Bien-aimés, fais donc ceci. D'abord, fais une prière pour toi-même, pour que ce que tu entends puisse devenir ta vie. De deux, fais tout pour transmettre ça aux autres. Parce que si tu reçois la parole de Dieu, c'est pour qu'elle produise. La parole de Dieu est semblable à une graine. Tu es le champ de Dieu. La graine est tombée dans le champ et elle a germé, elle a donné une plante et cette plante s'est démultipliée. Elle a donné des multitudes de graines. 30, 60, 100 ou plus. Voilà ce que c'est. Tu as reçu cette parole pour que se reproduise. Il faut que autour de toi d'autres se convertissent. Autrement, tu ne pourras jamais prouver l'amour de Dieu. Et quand tu as accompli cette loi, tu as accompli tout. Tu feras l'honneur de Dieu, tu feras le plaisir de Dieu, tu as su prouver à Dieu que tu l'aimes. Plus tu te donneras l'importance à ce que je te dis maintenant, plus ton amour sera prouvé devant Dieu que tu l'aimes. Et alors tu vas me dire, et moi-même? Mais il avait dit, dépose ton fardeau, moi je vais m'occuper de ça, mais toi prends le mien. Le fardeau de Dieu, c'est donc ça. Il veut que l'humanité soit sauvée. Et ton fardeau, c'est lequel? C'est ce qui te préoccupe du matin au soir, ce qui aurait dû être là, ta préoccupation. Mais le Seigneur dit, laisse, je vais arranger ça pour toi. Il va faire la paix dans ta maison, tes enfants, ton travail, il s'en occupera. Sans toutefois que tu vises la richesse, sans toutefois que tu vises la supériorité, la concurrence, sors de là, parce que ce sont ces choses qui vont te perdre. Mais laisse ce que le Seigneur t'a dit, vis jour au jour, que chaque jour suffit sa peine, et chaque jour sa victoire. Oui, j'ajoute cela, et je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Je vais demander donc à ce que nous prions. Oui, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis par ce message que nous venons avoir ce matin. Prends ce message, Seigneur, grave-le dans le cœur de tes enfants. D'abord, qu'ils puissent accepter ça, vivre ça, qu'ils fassent maintenant, désormais, l'état de leur vie, la préoccupation de leur vie, et d'être aussi capable de transmettre ça aux autres, car on ne peut pas s'arrêter sur nous. Oh, Seigneur, nous avons été appelés pour être cités dans le sacerdoce, dans ces missions qu'est le tien, car nous avons hérité cela. Là où tu étais, c'est là où nous sommes. Là où tu devais aller, c'est là où nous irons. Merci au Seigneur. Je bénis tous ceux qui vont écouter ce message et qui le mettront en pratique. Je demande, Seigneur, que le Saint-Esprit les accompagne avec toute puissance pour prier pour les malades, pour chasser des démons, que toute ta parole s'accomplisse, car ils ont ton évangile en main. Fais en sorte aussi que les églises comprennent, Seigneur, l'originalité de ton message, de ta pensée, de ta volonté, qui comprennent ça et qui ne s'éloignent pas, car les temps sont devenus difficiles. Le diable s'est levé, il sait qu'il y a peu de temps et il essaie de faire son maximum pour attirer beaucoup de gens loin de toi et qu'ils se perdent ensemble avec lui, alors que l'enfer a été fait pour lui, non pas pour les humains. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je viens d'ainsi prier. Amen. N'oubliez pas de publier ce message aussi aux autres. Et à la prochaine. Je vous aime tous. Au nom de Jésus. Amen.